Ça va toujours ? Ouais.
Grand, grand 8. Accrochez vos ceintures, gardez vos mains et vos oreilles à l'intérieur de l'habitacle.
Culture,
carte blanche à une personnalité,
société,
grand entretien,
live
exclusif,
art,
sélection des meilleures productions du mois,
Radio Grenouille,
8h en direct. C'est parti pour le Grand 8, le magazine de la rédaction.
Ouais, vous êtes prêts ? On peut y aller ?
Il est 17h sur Radio Grenouille, le Grand 8 continue, nous sommes en direct depuis midi et après cette dense après-midi de création, de son tout en poésie et en voyage sur les ondes, c'est avec un immense plaisir, je l'ai dit, que nous accueillons pour ces trois dernières heures en direct le journaliste marseillais Philippe Pujol. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Alors 3 heures, c'est un peu une carte blanche, hein. On va s'éloigner un peu du formel à proprement parler. À Radio Grenouille, on aime bien casser les codes, les formats, et c'est pourquoi nous n'avions pas spécialement adopté la ligne de te recevoir, Philippe, au moment de cette énorme session de promo au moment de la sortie de ton dernier livre, il y a une paire de mois, La Fabrique du Monstre. La Fabrique du Monstre est sortie par les éditions Les Arènes et elle est sous-titrée 10 ans d'immersion dans les quartiers nord de Marseille, parmi les plus inégalitaires de France. Alors on s'est dit qu'on allait attendre un peu et l'organisation de ce Grand 8 avec mes camarades de jeu de la rédaction de Grenouille est l'occasion, disons, quasi idéale en ce lundi après-midi de déplier plusieurs des concepts, disons, du journalisme selon Philippe, de ce journalisme d'immersion à la première personne, de ce qui l'anime, des musiques qui t'accompagnent, hein, pendant le processus de recherche, d'enquête et d'écriture, de cette fabrique du monstre, de cette hydre au cœur des trafics, des règlements de compte, qui depuis ce week-end d'ailleurs font reparler de notre ville dans les médias nationaux, du clientélisme électoral, des comparitions devant le tribunal pour détournement de fonds, tout ça. Un monstre qui est magnifiquement et tragiquement décrit durant ces quelques 300 pages par notre invité Philippe Pujol. 3 heures ensemble, une journalistique, une musicale et une sociologique avec Philippe Pujol sur antenne de Grenouille. Comment ça va, Philippe ?
Ça va très bien. Ça va. Merci.
Ouais. Ouais. Tu sors d'une grande période de promo, hein, je l'ai dit.
Interminable période de promo.
On va voir le
qui
temps.
Qui est plutôt positif, mais qui est assez, non pas fatigant, mais répétitif.
Répétitif. Ouais. On va essayer de se déplacer un peu durant ces 3 heures, hein, avec sur l'antenne de Grenouille. Qu'est-ce que ça fait de représenter comme ça, de manière très intense, un peu peut-être faire survivre, peut-être déplier, peut-être dépassionner tous ces clichés marseillais qu'on peut entendre.
Ouais, c'est vrai que je deviens le journaliste marseillais du moment. C'est quelque chose qui changera, qui évoluera, qui est un petit peu lourd à porter. Mais j'avais déjà eu le prix à Albert Londres à porter. Donc côté lourd à porter, j'ai déjà donné. Donc c'est bon, je commence à avoir les épaules. Et je deviens une référence un peu trop d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qu'on peut interviewer, qu'on peut appeler quand il se passe quelque chose sur Marseille. Et j'ai pas envie de devenir ce que je peux dénoncer, c'est-à-dire devenir un spécialiste, un marseillologue. Et je le suis malgré moi, je suis marseillologue. C'est pour ça que je vais me détourner de Marseille, que je vais travailler sur d'autres sujets, ce qui veut pas dire que j'écrirai plus du tout sur Marseille, mais j'écrirai beaucoup moins sur Marseille, ça c'est sûr.
On va en parler là durant ces 3 heures, un peu ton regard sur le journalisme aujourd'hui, hein, à Marseille, au niveau national, également sur toutes ces thèses que tu développes, hein, dans la Fabrique du Monstre, que tu as développé aussi, etc., au gré de tes reportages et ta série Quartier Shit, pour laquelle tu as obtenu le prix Albert Londres en 2014, de ton premier ouvrage également, sorti cette fois-ci sur l'édition Wild Project avec French Deconnection. Revenons un peu, si tu veux bien, c'est quelque chose que tu as expliqué 10 000 fois, mais pour remettre un peu le contexte pour les auditeurs et auditrices qui... Il y en a forcément qui ne te connaissent pas.
Bien sûr, j'espère.
Sur tu es rentré en 2004 à La Marseillaise,
oui.
Journal local, régional, que nous connaissons bien ici, qui traverse d'ailleurs
historique,
une période assez difficile. Et on est vraiment sur... Tu es rentré comme fait diversier. Et on est vraiment sur des allers-retours quasi quotidiens, j'imagine, dans les cités que tu as connues. Tu es Marseillais, tu es né ici à la Belle de Mai.
Alors, je suis pas né ici, je suis né à Paris.
Ah oui, c'est vrai.
Je suis arrivé à l'âge de 2 ans ici, à la Belle de Mai. Ici, c'était un terrain de jeu pour moi, là où on se trouve aujourd'hui. C'était pas encore une friche avec F majuscule. C'est une friche avec F minuscule et c'était mon terrain de jeu d'enfant. Pour ce qui est de la Marseillaise, j'y rentre en 2004. Très rapidement, on me nomme volontaire pour être au fait divers. C'est-à-dire que je veux pas y être, mais on me dit que je veux y être. Donc j'accepte parce que ça me donne un CDI. Et en plus, bon, je relève le défi. Je trouve ça marrant. c'est pas tout de suite que j'ai pu faire travailler ce style avec les cités. Au début, je travaillais comme n'importe quel fait diversier, c'est-à-dire beaucoup avec la police. J'ai fait ça longtemps. J'avais tout de suite une écriture différente. Ça, c'était important pour moi. Il fallait que je me démarque de la Provence, qui bosse bien sur les faits divers. Et donc, pour me démarquer, dans un premier temps, c'était pas l'info, c'était le style. Et j'ai tout de suite eu un style totalement différent, qui a eu son petit succès d'ailleurs, assez rapidement. Ensuite, pour plein de raisons, je me suis retrouvé à un peu plus travailler sur les cités, que je connaissais déjà par ailleurs, pour avoir grandi pas très loin de cités. Moi, j'avais des amis à Félix Piat. Mmh. C'était une autre époque, les années 80, quand j'ai grandi ici. C'est les Blancs, comme moi, ils allaient à Félix Piat, où il y avait d'ailleurs d'autres Blancs. C'était pas qu'une cité de Noirs et de Rebeux. Il y avait des Blancs déjà à l'époque. Et j'allais jouer là-bas sans que mes parents s'en émeuvent. Hein. C'était normal. Mmh. Aujourd'hui, ça serait pas pareil. Je suis pas sûr que ça se passerait de la même manière. Est-ce que c'est justifié? Je pense pas, mais toujours est-il que... on ne laisserait pas un gamin de 12-13 ans aller jouer à Félix Piat de mon sociotype, quoi.
Vas-y.
Et voilà, en fait, donc, pour raconter rapidement comment ça s'est passé, c'est... j'étais fait diversier assez classique, c'est-à-dire, le matin, on va à l'évêché, on fait les courses, et les flics nous donnent de la matière pour écrire. Jusqu'en 2011, j'ai fait ça, en faisant en même temps de la rubrique quartier pour la Marseillaise, qui s'est toujours intéressée aux quartiers populaires. Donc j'étais amené aussi à écrire sur les quartiers populaires, mais de manière ponctuelle. Donc j'avais une bonne connaissance.
Un entretien avec des sociologues.
Voilà, ou tout simplement y aller déjà. J'ai toujours fait du terrain. À la Marseillaise, tout le monde fait du terrain. Et on y allait, on faisait un focus sur un quartier. Moi, j'étais plutôt sous mes angles sécurité-justice, on va dire. Et donc j'avais une bonne connaissance de cité. Et... arrive en 2011 un préfet de police qui a depuis des soucis avec la justice, Alain Gardère, avec qui ça passe pas du tout entre lui et moi, dès la première interview. Et comme il a été particulièrement méprisant, particulièrement dur avec moi, j'ai tout de suite fait un article qui s'appelait « Fier à bras ». Et cet article-là a dénoncé beaucoup de choses qui se sont avérées vraies, a surtout fait que je me suis fait petit à petit virer de l'évêché. J'ai plus pu aller à l'évêché. Donc je me suis retrouvé sans matière pour côté police. Donc j'ai fait marcher la matière que j'avais du côté cité. Et là, je me suis mis sur une écriture qui ressemble à ce que je fais aujourd'hui, qui est plus orientée, une sorte d'approche du fait divers, mais sociétal, directement auprès des cités.
Discuter avec, rencontrer les familles, rencontrer les minots,
rencontrer tout le monde, idéalement.
Rencontrer tout le monde, c'est ça, ouais.
Voilà, c'est la plupart du temps, quand on bosse dans les cités, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui... souvent, quand des journalistes nationaux descendent, ils ont peu de temps. Ils n'ont pas le choix. On leur a donné 2 jours. Bon, ils vont acheter du shit quelque part et ils racontent ce qu'ils ont vécu. Sauf que quand on fait ça, quand on va acheter du shit, les minots, ils jouent un rôle. Ils sont des acteurs. Ils vont donner ce que, de toute façon, ils ont vu eux-mêmes à la télé. Ils veulent rester dans ce cliché-là. Donc, ça fonctionne pas. Donc, je voulais aller plus loin. Et j'ai eu plein de méthodes, plein de techniques qui font que j'ai pu toucher beaucoup de monde. C'était de l'impressionnisme. On peut pas rester longtemps avec des gros dealers. C'est pas possible. On ne reste que quelques minutes, pas plus. Et on fait semblant d'avoir autre chose à faire et on n'est pas là pour eux. C'est ça la stratégie. Si on vient pour eux, ça va mal se passer. Donc, il faut revenir souvent, faire beaucoup de passages. Et moi, ça a été mon quotidien. Je faisais ça tous les jours. Ça m'amusait longtemps. Ça m'amuse plus aujourd'hui. Ça m'amusait longtemps. En plus, je voyais qu'il y avait de la matière qui venait, que j'avais quelque chose que je pense être un peu nouveau. Et ça, plus mon style que j'avais travaillé depuis longtemps, ben, ça a donné d'abord French Day Connection, après Quartier Chic, après Albert Londres, et après La Fabrique du Monstre.
Quand tu parles de technique, d'approche, est-ce que tu...
Comme
par exemple ce que t'expliques il me semble que c'est dans La Fabrique du Monstre, avec la musique de ton la sonnerie de ton portable, c'est ça?
Alors,
avec ça, précise.
J'ai eu un coup de chance là. C'est-à-dire que j'avais comme sonnerie de portable Inside the Brain de Cypress Hill. Et normalement, quand on va discuter avec des gens, surtout dans les cités, on coupe la sonnerie, on met sur un vibreur. Et là, je l'avais pas fait. Et j'étais en train de discuter avec 3 jeunes. Il y en avait 2 qui devaient avoir 17-20 ans et 1 qui devait avoir 30-35 ans. Et ça tournait pas terrible pour moi. C'était pas très bon. Et d'un seul coup, mon téléphone s'est mis à sonner. C'était Cypress Hill. Et le plus âgé, il me fait « Oh, Cypress Hill ». J'ai fait « Ouais, Inside Your Brain ». Et hop, il m'a amené dans un coin, il m'a sorti de là. J'ai eu un coup de chance. C'était une connerie, quoi. Et donc, là, c'était pas une méthode. C'était D'accord. un coup de chance. Les méthodes, c'est...
Mais ça traduit peut-être aussi un peu ta personnalité, etc.
Oui, complètement. C'est-à-dire que moi, ça passe très vite parce que je fais pas semblant. Je dis très vite que je suis journaliste. journaliste, je le dis immédiatement. Je, de toute façon, je sais qu'ils vont me googliser aujourd'hui et qu'ils vont trouver instantanément qui je suis, ça sert à rien. Donc, en plus, je sais comment fonctionnent les réseaux, donc je sais qu'ils ont notre photo, ils ont déjà plus d'infos qu'on ne le pense. Donc, mentir, c'est immédiatement se mettre dans la posture de celui qui veut les arnaquer. Mmh. Donc, il faut être vrai tout de suite. Et ensuite, il faut très bien comprendre leur vie, leur système, pour pouvoir trouver le moment où on peut les rencontrer. C'est-à-dire qu'il faut connaître les horaires où ils n'ont pas trop fumé, les horaires où au contraire ils sont défoncés, comme ça on peut leur parler. En fonction de ce qu'on veut comme réponse, ce qu'on veut obtenir, il faut choisir ces moments. Il y a des moments où c'est impossible d'aller, tout simplement, parce qu'ils sont en pleine bourre, ils bossent, et qu'avec ma gueule de flic, c'est pas possible. Donc il faut faire ça intelligemment. Et puis après, essayer d'avoir le plus de monde possible comme interlocuteur. Pas se fier à une ou deux personnes.
Comment ça s'est passé quand tu as voulu proposer vraiment cette série Quartier Shit à la Marseillaise qui t'a fait justement gagner le prix Albert Londres? Moi qui étais lecteur de L'Héros du Jour, l'édition Montpellier-Rennes, je me souviens qu'elle était publiée jusque-là. C'était très rare d'avoir des articles qui nous racontaient Marseille de cette manière à cette époque-là. C'était pendant l'été, hein, il me semble.
C'est ça.
Et comment ça s'est passé pour proposer ça et arriver à...
Alors là, déjà, il y a eu une première série, donc French The Connection, pour laquelle j'avais eu le prix Varennes, ce qui est déjà...
Le prix pour les localiers, du coup.
Le prix pour les localiers, c'est le César, quoi. Voilà, l'Albert Londres, c'est l'Oscar, et là, c'est le César. Donc, j'avais fait cette série. Pourquoi? Parce que j'avais travaillé un petit peu sur les cités. J'avais fait le fixeur pour une chaîne de télé anglaise qui m'avait fait gagner des sous. Et comme je culpabilisais un peu, j'ai dit, je vais leur en faire une série, une partie, puis je vais compléter. Donc, j'avais fait cette série. Ça a très bien marché. Très, très bien marché. J'avais une approche série télé. Je voulais qu'il y ait des épisodes comme si on suivait une série télé. C'était ça, mon approche. Ça avait bien, bien marché. Et ça avait surtout servi à boucher les pages d'été. Parce que l'été, comme toutes les rédactions marseillaises compris, on galère à remplir les pages.
Une fois le mondial passé,
les gens partent en vacances, on ne peut pas tout faire aux stagiaires, donc à un moment il faut boucher une page. Et donc je vais proposer cette série qui a été publiée pratiquement intégralement quand j'étais en vacances. J'ai écrit à l'avance et ça avait bien marché. L'année suivante, donc, c'était pas du tout pour avoir un prix, puisque comme j'avais eu le prix Varennes, je ne pouvais plus avoir de prix normalement. Et donc j'avais fait Quartier Shit. Et là, ça a été plus compliqué à passer. Bon, je passe les détails. À la Marseillaise, ça a un peu freiné. J'ai utilisé quelques ruses pour passer les premiers épisodes qui se sont... Ensuite, ça a perduré. Les 10 sont passés. Et en effet, il est passé, puisque c'était quelque chose d'assez universel, ça passait dans toutes les éditions. Mmh. Et aussi parce que ça bouchait les pages de toutes les éditions. C'est des questions très pratiques. Et là aussi, il y a eu un bon petit succès. Je le voyais sur les réseaux sociaux, ça marchait bien. C'est pendant que j'étais en vacances aussi que ça passait. Et là, après, ben voilà, c'est allé jusqu'au prix Albert Londres, quoi.
Non, mais c'est pour aussi que les auditeurs et auditrices comprennent bien. On imagine peut-être moins aujourd'hui, on développera un peu plus loin dans cette rencontre sur le journalisme aujourd'hui, mais le processus qui amène un journaliste à proposer ce genre de sujet qui peut être très difficile, un peu avec une autre écriture, loin des clichés justement, un portrait, etc. Moins sur le bilan juste avec du cul, avec de l'argent, avec du sang, avec sur des portraits beaucoup plus sensibles. On imagine moins peut-être tout ce processus qui est très difficile aujourd'hui à mettre en place.
Oui, parce qu'en fait, c'est pas naturel. Et là, la Marseillaise me l'a permis. Hein. La Marseillaise a cette ouverture qui fait qu'on peut avoir une écriture différente. J'ai eu une écriture différente tout de suite. J'avais une rubrique qui, au début, s'appelait « Désordre ordinaire » pour les faits divers. C'était une succession de brèves que j'ai fait pendant 8 ans. Et c'était des brèves qui étaient soit très marrantes, soit déprimantes sur des faits divers. Donc, je cherchais du sens quand il y en avait. Et quand il n'y en avait pas, c'était très cynique. Il n'y avait pas de sens du tout. Et ça a eu son succès, ça. Je me rappelle que les gens aimaient beaucoup. Et ça, j'ai été obligé d'arrêter à partir du moment où je suis plus allé à l'évêché. Donc, j'ai plus eu de matière, je n'ai plus écrit ça. Et donc, je passais à autre chose. Mais donc, dans le style, la Marseillaise est très, très ouverte. Et ensuite, journaliste de terrain. Il y a cette liberté, je dis il y avait, parce que j'y suis plus, mais il y a cette liberté à la Marseillaise de proposer et d'écrire quelque chose. On n'est pas contraint comme la plupart des journaux de PQR. Parce que, en fait, l'objectif n'est pas de plaire à tout prix au lecteur, paradoxalement. L'objectif, c'est pas d'aller chercher le lecteur, mais c'est de lui donner ce qu'il doit lire, ce qu'on pense qu'il doit lire. Donc ça marche pas à tous les coups. Pour moi, ça a marché. Ça a marché justement grâce pour moi, grâce à la forme narrative.
Mmh. Au travail sur l'écriture qui a été été influencé, tu le disais, par Monsieur Fénéon.
Oui, moi, mon style est au début une imitation de Félix Fénéon. C'est comme un guitariste qui va imiter Hendrix pendant tout le début de sa carrière et qui petit à petit va prendre son propre style. Ben moi, mon Hendrix à moi, c'était Fénéon. Et Félix Fénéon, c'est un critique d'art qui, pour gagner un peu sa vie, faisait des faits divers au 19e siècle.
D'accord.
C'est quand même celui qui a lancé, qui a fait connaître au grand public Rimbaud, qui a fait connaître Verlaine, qui a fait connaître tous les grands auteurs de cette époque-là, y compris étrangers, Dostoïevski. C'était un anarchiste. Et donc, il avait une écriture vraiment incroyable. J'ai rarement lu quelque chose d'aussi incroyable que Fénéon. Même du Céline m'impressionne moins que du Fénéon. Et donc, moi, quand j'ai découvert ces brèves, j'ai dit, je vais faire ça. J'ai imité en actualisant le vocabulaire. Mmh. Et bon, depuis, je m'en suis un peu détaché. Ce qui donne ce style qu'on dit célinien, mais c'est pas célinien, c'est fénéonien. Ça, c'est pour l'écriture et la méthode de recherche de sens ou au contraire d'absence de sens sur un sujet donné. Fénéon était très fort pour ça.
Mmh. C'est-à-dire absence de sens sur un sujet.
C'est-à-dire que des fois, il y a des faits divers où il n'est pas nécessaire d'aller chercher un sens soit social, soit économique. Il n'y a pas de réelle raison que ce fait divers soit arrivé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui donner de sens. Il est irrationnel. Ça arrive, il y a toujours des faits divers irrationnels. Et la maladie qu'ont les journalistes, que j'ai pu avoir moi aussi, c'est d'absolument nous vouloir le faire rentrer dans une case, c'est-à-dire dire si on va y trouver un sens à ce fait divers. Ben non, quand il n'y en a pas, il faut faire comme Fénéon, ben il faut se moquer de ça. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas et ça devient quelque chose de très cynique ou de très poétique aussi. J'essaie d'avoir une écriture très poétique. Je lis beaucoup, beaucoup de poésie, particulièrement quand je suis en phase d'écriture. Quand j'écris, je lis énormément de poésie. D'accord. Parce que ça nous aide à trouver ce que les rappeurs appellent des punchlines. Moi, j'ai cette écriture-là avec des phrases fortes et un texte qui t'amène à cette phrase forte. Voilà, c'est ma méthode d'écriture, c'est une méthode un peu poétique aussi.
Cette absence de sens et ces choses peut-être irrationnelles, c'est quelque chose que tu as compris peut-être lors de ton travail dans les quartiers, par exemple ?
C'est quelque chose que j'ai compris dès que j'ai commencé le fait divers. Parce qu'au début, je voulais à tout prix trouver du sens. C'était vachement important pour moi. J'étais à la Marseillaise, journal qui a une ligne bien définie,
engagé.
Ce qui me plaisait beaucoup, engagé, ce que j'ai toujours aimé. Et donc, j'avais aussi le revers de la médaille, c'est d'essayer à tout prix de trouver une explication sur tout, et une explication sociale d'ailleurs, ou une explication sociétale sur tout. Or, je me suis rendu compte petit à petit qu'il y en a, non, il n'y avait pas d'explication. Il n'y avait aucune raison que ce fait divers soit arrivé, sinon le hasard et un côté malchance, irrationnel, absurde. Et tout ce grotesque, j'aimais bien le mettre en avant quand il y en avait. Mmh. Donc, dans les cités, il y a ce grotesque aussi, il y a cet absurde. Quand on parle avec des gamins qui sont sous fumette, des fois, il ne faut pas chercher de la cohérence, il n'y en a aucune. Ça ne veut rien dire. Mmh. C'est un non-sens absolu. Et c'est ça qui devient intéressant, j'ai envie de dire. De temps en temps, je mets des passages, et des passages complètement, d'ailleurs, qui font rigoler généralement, complètement farfelus, complètement loufoques, où le type, il fume son propre shit coupé au goudron, ou à l'huile de vidange, il la fume, alors qu'il vient de couper à l'huile de vidange. Quand tu le fais remarquer, il fait, je m'en fous. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là ? Pas grand-chose.
Quelque chose que tu décris très bien, justement, ouais, tous ces... que tu essayes des fois de retranscrire en quartier nord dans le texte, je sais pas si c'est...
Oui, leur vrai langage, oui, parce que je vais pas les faire parler comme Louis XIV, quoi. Mmh. Ils ont un langage qui est particulièrement imagé. Ils ont les petits voyous en plus. Ils ont une capacité un peu à la Audiard à trouver la phrase qui percute, parce que ça a du sens. Là, ça, une phrase qui est particulièrement bien aiguisée, qui tombe pile au bon moment, même si elle est vulgaire, hein, elle a pour fonction de mettre un couteau sous la gorge de l'interlocuteur. C'est-à-dire, ouais, moi j'ai raison, et moi à un moment je peux te tailler avec ma phrase, quoi. Mmh. Il y a un côté, une arme. Et donc même les plus crétins des minots qui sont dans la voyoucratie, ben même ceux-là, ils ont un langage qui est particulièrement efficace. Alors, c'est très vulgaire, hein, je suis d'accord, hein, mais en tout cas, c'est hyper efficace. Je ne peux qu'essayer de le rendre, ce langage. Je peux que rester dans la réalité. Et puis, c'est ce qui plaît au lecteur. C'est-à-dire qu'en plus, moi, j'ai un style qui est plutôt parfois un peu empoulé. D'un seul coup, boum, arrive une phrase complètement sortie directement d'une cave des quartiers nord. c'est vrai que ça fonctionne. J'ai une méthode d'écriture que je résumerai en disant une tache de sang sur un drap blanc. C'est-à-dire que si tu veux voir la tache de sang, il faut que le drap soit blanc. J'écris comme ça, moi. Énormément en contraste.
Alors, on l'a dit, la série Quartier Shit, Fresh Day Connection. Tu es ici aujourd'hui avec nous jusqu'à 20h sur Radio Grenouille pour évoquer aussi la Fabrique du Monstre que tu viens de signer et que tu es en pleine promotion de cet excellent bouquin. Avant de rentrer vers 19h avec mon collègue Emmanuel Morera et également avec la sociologue Claire Duport notamment et Charles Robinson, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet de ce qu'est Marseille aujourd'hui, mais je voulais un peu en discuter avec toi pour tu as élargi un peu le spectre avec la sortie de ce bouquin. On reste aussi dans les quartiers avec des relectures, des réécritures de tout ce dont tu avais travaillé avant, mais tu tires une trame en reliant la politique là-dedans, en reliant le milieu associatif là-dedans, en reliant une image un peu plus globale de Marseille, ta ville. Quelle a été ta volonté avec la Fabrique du Monstre?
Je voulais surtout pas qu'on imagine que les règlements de compte, ce qu'il y a de plus visible et de plus médiatique, soient une problématique isolée. Voilà, le règlement de compte n'est pas à séparer de ces résidences qui poussent partout dans la ville, des résidences fermées pour les classes moyennes, n'est pas à séparer non plus de l'affaire Andrieux sur le clientélisme associatif.
Donc tout ça, je
me sers de cette affaire pour faire la bascule entre les deux parties du livre, c'est-à-dire la partie reportage quartier nord, on va dire, avec la partie politique. Le zoom arrière se fait sur l'affaire Andrieux. L'important, c'était de montrer qu'en fait, on est dans différents systèmes qui s'intercroisent et qui trouvent chacun leur place. Et sont beaucoup des systèmes clientélistes, mais pas uniquement. Et qu'en fait, si on veut améliorer les choses, si on veut que les règlements de compte diminuent, les arrêter, ça me semble pas possible, mais qu'ils diminuent, ça me semble possible, ça va pas être avec l'action de la police, ça va pas être avec... même si l'action de la police a son rôle à jouer, mais ça n'est pas la solution. Les flics sont les infirmiers, et les règlements de compte sont les symptômes d'une maladie générale. Cette maladie générale, elle est nationale, mais elle est très forte à Marseille. C'est une république malade de son clientélisme. Mais le clientélisme, c'est aussi la corruption, les conflits d'intérêts, les lobbies. Et nous, on a un peu tout ça à Marseille. On n'a pas un peu tout ça, on a tout ça à Marseille. Et je voulais montrer qu'on est dans un monstre, justement, dans une figure globale qui fabrique ces symptômes-là. Symptômes que sont la misère, que sont les règlements de compte, la drogue, mais symptômes aussi que sont trois maires en depuis l'après-guerre, dont deux plus de 20 ans, et un clientélisme qui se bagarre pour que rien ne change. C'est-à-dire on met énormément d'énergie à ce que rien ne change, parce que naturellement les choses changeraient. Or elles ne changent pas, c'est-à-dire qu'il y a une résistance. C'est pas de l'inertie en soi. C'est une inertie. C'est comme ceux qui font un peu de physique, c'est les moteurs rotoscopiques. Ça tourne pour rester immobile. Ça tourne très vite pour rester immobile. Ben là, en fait, il faut énormément d'efforts, énormément d'argent dépensé, énormément de lutte politique pour que rien ne bouge, en apparence en tout cas, parce que dedans ça bouillonne. Et je voulais raconter tout ça. Qui nous amène vers le travail qu'ont pu faire des types comme David Simon sur Baltimore ou Saviano sur Naples, enfin sur la Camorra. Enfin, c'est le même type de moulot que ça.
On va en parler juste après justement de ces deux auteurs. Mais tu penses vraiment que naturellement les choses changeraient?
Je pense que c'est la force des choses, le changement, c'est-à-dire que ça change en bien ou en mal, mais regardez, depuis que le TGV est à 3 heures de Paris, tout ce qu'on appelle à tort les bobos, que j'appelle plutôt les intellos précaires, parce que c'est nos bobos à nous, ils n'ont pas beaucoup d'argent, et ceux-là sont venus sur Marseille en voyant en Marseille quelque chose qui existe vraiment, c'est-à-dire une ville qui n'est pas franchisée. On n'a pas à Marseille les mêmes villes. Partout ailleurs en Europe, on a la même ville avec grosso modo le centre-ville gentrifié, le même type de population, la même musique, les mêmes... c'est à peu près partout pareil. Marseille, grâce à son retard, grâce à ses problèmes, n'est pas franchisée. Il y a tout à faire, tout à construire. Il y a un bordel qui est attirant. J'aime bien le bordel marseillais. J'aimerais bien que certaines choses s'améliorent, mais j'ai pas envie non plus que tout rentre en ordre. J'espère que le bordel va perdurer, mais ça va, pour ça, je vais pas m'inquiéter. Cette population de non-marseillais, dit de parisiens, un parisien avec un P comme ça, parisien, est un non marseillais, c'est-à-dire qu'un Toulousain, un Montpelliérain, un Bordelais est un parisien. C'est la nouvelle immigration. C'est les nouveaux immigrés. Mmh. Ils restent pas. Mmh. Et ils restent pas parce que justement, on fait les efforts pour qu'ils restent pas. Il y a dès qu'ils vont monter une asso, dès qu'ils vont monter un bar quelque part, on empêche, on organise sa fermeture. Enfin, on met des bâtons dans les roues tout le temps. Et c'est parce que cette population-là pourrait être un peu le renouveau culturel et marseillais, par exemple. Et c'est par la culture que tout passe. Sachant que culturellement, c'est une ville qui bouillonne depuis toujours, depuis les années 60 et probablement avant. Et donc, les gens qui fatiguent aujourd'hui, les Marseillais, les purs Marseillais, s'il n'y a pas de pureté chez les Marseillais, c'est bien un peuple qui n'a pas de pureté, c'est bien les Marseillais, c'est leur force aussi.
Les purs depuis 2600
voilà,
ans.
Voilà, les purs depuis 2600 ans, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et ils ne sont plus très purs d'ailleurs, parce que ce n'est pas très logique. Si tu es depuis toujours Marseillais, tu n'es plus Marseillais, parce que par définition, un Marseillais, il vient d'arriver normalement. Donc les anciens de la culture commencent à avoir 50 piges, on les connaît, vous avez dû les inviter 50 fois ici. Ils fatiguent, qu'ils le veuillent ou non, ils fatiguent, ils sont usés par tout ça. Et cette nouvelle population, les remonter, les rebooster, je pense que c'est pas mort, c'est pas foutu. Mais il y a des efforts pour que ça n'arrive pas. Regardez, dès qu'on fait fermer un truc, regardez comme c'est compliqué de faire un truc l'été sur une plage, alors que normalement on a des plages, c'est la Californie, on devrait s'en servir. Ben non. On trouve des arguments bidons. Par contre, quand le fils d'une élue organise quelque chose, paf, là, on trouve la place et on y arrive. Et c'est très bien, c'est très bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'égalité, encore une fois. C'est dommage. Mmh. Mais c'est très bien qu'il y ait des choses d'organiser. Même des trucs mauvais, c'est pas grave. Il faut bien qu'on fasse quelque chose à un moment. Mmh. Et voilà, c'est ces efforts-là qui sont mis pour que ça n'avance pas, qui sont gonflants. Et en même temps, je pense que naturellement, ça se mettrait en place. Et ça se met en place. Je veux pas être trop négatif. Il y a des choses, il y a plein de choses qui se passent. Mmh. Et toujours underground.
Tu parlais d'égalité, peut-être ta volonté. Voilà, et ça me fait rebondir sur une des choses que j'ai le plus aimé dans la Fabrique du Monstre. C'est que tu mets vraiment un chapitre, par exemple, sur un gamin qui s'appelait Kader, un chapitre également sur ses parents, Nadir et Swad, et également un chapitre sur notre chère mère, Jean-Claude Godin, qui sont vraiment dans les deux cas, t'as essayé de creuser pour vraiment comprendre d'où ils viennent.
Ouais, il y a Guérini, il y a Ravier aussi.
Ouais, c'est ça, ouais. Les deux systèmes, en fait.
Tous les systèmes, pas tous les systèmes, il y en a que je n'étudie pas, il n'y a pas un mot sur l'OM, je pourrais parler de l'OM, il n'y en a pas, il n'y a pas le port, il y a plein de manques, mais ça ferait un livre de 1000 pages illisible qui ne se vend pas. Donc à un moment, il faut faire des choix. Et donc j'ai fait les choix d'écarter l'OM parce que d'autres vont le faire bientôt, et le port, parce qu'il n'y a plus grand chose à dire, malheureusement. Mmh. En effet, je traite tout le monde sur un pied d'égalité. Mais dans mon travail, c'est déjà ça. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans le travail de journaliste, c'est que dans la même journée, tu vas parler à un petit minot des quartiers nord complètement défoncé. Et dans la même journée, tu vas aller voir le préfet, voir un ministre, tout en passant par un élu local et des gens, que je dirais, de classe moyenne, enfin, monsieur tout le monde. Et j'aime bien cette transversalité que peuvent avoir les journalistes. Et j'aime bien qu'elle se lise aussi. Voilà, je n'aime pas du tout les livres catalogues, moi. Il y a énormément de livres sur Marseille. Et il y a pratiquement que des bons livres dans l'info et qui sont plus durs à aborder parce que souvent ce sont des catalogues d'affaires. Mmh. Et on ne donne la parole qu'à des avocats, des juges, au mieux, enfin des avocats généralement, des flics, enfin des gens qui sont des gens de la haute, en tout cas impliqués dans les affaires directement. Moi, j'aime bien que, justement, ben, à un moment, il y en a un que j'appelle Quitte Main Libre, parce que j'ai jamais su son vrai nom. Alors, on va pas dire pourquoi Quitte Main Libre, ceux qui le livrent au moins, et le lisent au moins, ils rigoleront. Et c'est un personnage que personne n'aurait cité. Personne n'aurait choisi de citer ce type. Et pour moi, il est représentatif de ces quartiers-là. C'est un type en errance qui sait tout parce qu'il se promène au milieu de tout le monde, que comme il est taré, ben, personne ne l'empêche d'être là. C'est le fou. Et quand il se met à parler, ben, il raconte tout, mais comme il est fou, tout le monde s'en fout. Et voilà, c'est un personnage que la plupart du temps, les journalistes ignorent totalement. Donc moi, il m'intéresse.
On va se faire juste une petite respiration musicale, Philippe, si tu le veux bien, avec un autre camarade en errance. Il s'appelle Raphaël Imbert, saxophoniste d'ici, saxophoniste et chercheur, avec ce qui vient de sortir un dernier album qui s'appelle Music is my home, avec une équipe de musiciens de plusieurs générations et des deux bords de l'Atlantique. C'est un nénuphar et une sélection Monsieur Watt sur le 88.8. On se retrouve juste après pour encore 2h30 d'ailleurs avec Philippe Pujol. Thank you.
Le Grand 8, l'émission qu'on écoute en boucle.
Retour dans le studio de Radio Grenouille 88.8. Nous sommes depuis une bonne grosse demi-heure avec le journaliste Philippe Pujol pour parler, pour évoquer la Fabrique du Monstre, mais également pour évoquer pas mal de choses qu'il écoute pendant qu'il écrit, pour évoquer Marseille, évidemment. Tout ça, ça sera jusqu'à 8h. On est ensemble jusqu'à 8h en direct sur Radio Grenouille. Mais j'avais envie de discuter, de continuer à discuter un peu avec Philippe du journalisme de manière générale. Alors, dans la Fabrique du Monstre, Philippe Pujol emploie pas mal la première personne. On est sur un journalisme d'immersion, comme on le dit. On a déjà pas mal parlé de ton écriture et de la façon dont tu ressens et enquêtes autour de toutes ces choses-là, qu'elles soient dans les quartiers nord, qu'elles soient au cœur de l'évêché avec les flics ou au cœur d'un système politique. Est-ce que d'une certaine manière, Philippe, le journaliste il ne serait pas également un personnage de toute cette tragédie un peu marseillaise à se mettre en scène comme ça? Est-ce qu'il ne fait pas au final partie de tout ça?
Alors moi je ne me mets pas en scène dans le sens où je ne fais rien. Je suis là, je regarde et je raconte. Je n'ai aucune action jamais sur rien. Je ferme aucune porte, j'ouvre aucune porte. À la rigueur, je ne sers à rien, je suis une caméra. Et en fait, je suis allé au bout de l'écriture que j'avais déjà à la Marseillaise, qui est publiée dans French Connection, là où j'ai mes articles sur la drogue qui sont compilés, où en fait, on se rend bien compte que je suis là, mais sans utiliser « je », parce que dans un quotidien régional, au quotidien, on n'écrit pas « je », et je trouve ça plutôt bien. Et là, mon éditeur m'a encouragé à mettre « je », parce que moi, au début, j'avais commencé de la même manière. D'accord. C'est-à-dire une écriture où on est bien conscient que le journaliste est présent, mais sans mettre jeu, et ils m'ont encouragé à mettre à utiliser la première personne. Et là-dessus, j'ai fait tout un travail. Alors, il se voit pas justement parce que justement j'ai travaillé un maximum. C'est que comme il y a deux parties très distinctes du livre, il y a une dépersonnalisation du texte qui se fait progressivement et presque mathématiquement de chapitre en chapitre, il y a de moins en moins de jeu. C'est-à-dire qu'il y a, j'ai avant de commencer à écrire, tracé une sorte de graphique statistique. D'accord. Qui dirait le nombre de jeux. Et en fait, je dépersonnalise le texte au fur et à mesure que je fais un zoom arrière. C'est-à-dire quand je suis au plus près de ce que je raconte, c'est-à-dire que je suis dans des squats, que je suis avec des dealers, que je suis avec des types qui me racontent la prison, voire un moment aussi un peu en prison, parce que je visite une prison, là, c'est jeu. Mais à partir du moment où je pars en arrière pour regarder les systèmes, là, il n'y a plus de pujol, il n'y a plus rien. Il y a uniquement une observation lointaine, avec de temps en temps des piqûres de rappel. D'un seul coup, comme si on était très haut et qu'on décrit quelque chose, poum, je me retrouve avec des types qui ne sont même plus des toxicomanes, parce que d'un seul coup, quand je raconte Noailles et pourquoi la gentrification de Noailles ne se fait pas et se fera jamais, d'un seul coup, je fais une sorte de retour, une sorte de flash, comme si on avait pris une drogue un peu dure, où on se retrouve tout de suite parmi des types qui... c'est même plus la drogue ce qu'ils prennent, je sais même pas, je veux pas le dire pour que ce soit lu.
C'est des pages très dures et très belles.
On est dans des types qui sont complètement ravagés. Et là, à nouveau, j'utilise le jeu parce que je suis avec eux. Dès que je repars en arrière, plus de jeu.
Et téléphone, et, Philippe Pujol.
Je pense pas que ce soit moi, si.
Peut-être. Et voilà.
Et nous écoutez, c'est les arènes. C'est les arènes qui m'appellent, doivent être contents de...
Ils doivent être contents de tout ça, de la description, de toute cette personnification de Philippe Pujol. Qu'est-ce que ça représente, justement, que
d'être personnifié comme
voilà,
ça. Trop, c'est trop.
Ah ouais,
c'est, non, ça me, je ne le recherche pas. Je ne le fuis pas non plus, parce que bon, ça fait partie du job. Mais c'est pas quelque chose qui me plaît, ça me dérange pas. Mais je trouve que c'est un peu trop personnalisé. Bon, voilà, c'est une promo. Je suis un bon client, hein. Je suis un bon client à la radio, je suis un bon client à la télé, je le sais. Surtout à la télé nationale, j'ai ce petit accent, mais pas trop. Quartier populaire, mais en même temps qui s'exprime relativement convenablement. Un joueur de D2 qu'à l'Albert Londres. Enfin, je suis un peu le Marseille Dream. Et j'en suis conscient de ça. J'accepte d'endosser ce personnage-là. Je suis bien plus sérieux à la radio que je le suis dans la vraie vie. Je passe parfois, je vais dans des émissions, je passe pour un super gros intello, alors que je me sens pas du tout un gros intello. C'est un peu particulier, parce que c'est vrai que dès qu'il y a une petite notoriété, alors elle est toute relative, on me reconnaît pas dans la rue, ça me va très bien, mais dès qu'il y a une petite notoriété, on sent qu'on devient un personnage. On n'est pas réellement, quand je me suis vu au petit journal, c'est pas moi, moi je me vois au petit journal, en plus c'est enregistré, donc je suis devant la télé au moment où ça passe. Bon, ben voilà, c'est un type qui... C'est Philippe Pujol, journaliste, prix Albert Londres, tout ça. Et en fait, je ne suis pas aussi calme et aussi doux que je le suis à la télé, quoi. Mais à la télé, je suis obligé d'adopter ce ton. Je veux pas... On peut très facilement me caricaturer. Je peux avoir un accent qui est bien plus marseillais que ce que je prends à la télé. On peut facilement aller chercher mes grandes envolées lyriques, mes grosses blagues. Et des fois, j'ai des phrases très péremptoires. Je peux pas me permettre à la télé. Donc à la télé, j'ai l'air d'un mec super posé, super calme, pas forcément marrant. Bon, je suis pas ça, quoi. Mais c'est un personnage. Bon,
mais
je le vis bien.
Je le vis bien. Tu sais que tu peux dire ce que tu veux. Donc du coup, ma question autour du journaliste personnage, un peu toute cette tragédie, voire tragicomédie, c'est peut-être pas forcément faux, du coup.
Non, c'est pas faux. Ouais. Bien sûr que après, je me mets moins en scène que l'a fait Xavier Monnier dans Marseille ma ville, où il se met beaucoup plus en scène. C'est un choix, lui il raconte en même temps le travail du journaliste, comment bosse le journaliste et en même temps le journaliste marseillais. Donc il y a tout un truc là-dessus qui peut beaucoup plaire, qui peut moins plaire. Moi ça, celui qui vient chercher comment bosse un journaliste dans mon livre n'a pas d'élément là-dessus. Il faut presque acheter mon premier livre où je fais un avant-propos où là j'explique. Mais c'est peut-être moins marrant à lire d'ailleurs. Mais parce que je voulais focaliser mon travail sur les systèmes. C'est-à-dire que si on compare même à un Saviano de temps en temps...
Donc Roberto Saviano. Écrit Gomorra.
Qui a écrit Gomorra, lui, par moment, fait des grandes envolées lyriques, où des passages très philosophiques, qui peuvent être très intéressants, où il raconte, il met en perspective non même plus un système, mais carrément, on est dans des questions de moralité. Moi, je m'abstiens de faire ça, je ne le fais pas, je ne m'en sens pas légitime. J'en serais capable, je peux faire des grandes envolées lyriques très facilement. Mais... Je me sens pas légitime à faire ça. Y a des philosophes, il y a des gens qui peuvent le faire. Moi, je n'ai pas de raison de me mettre à faire ça. Et donc, j'ai une approche qui est beaucoup plus scientifique, beaucoup plus clinique. Et je mets de l'émotion, je mets de l'empathie, mais c'est dans l'écriture et c'est dans les personnages. Je n'utilise pas d'adjectifs, moi, très peu, j'en ai pas besoin.
Et en même temps, on croule pas non plus sous les chiffres comme un ouvrage de sociologie pure et dure sur Marseille. On est vraiment dans les récits aussi, comme à la fois, tu l'as évoqué, donc Roberto Saviano, mais aussi comme David Simon, qui a écrit Baltimore,
The Corner.
Voilà.
Et alors Baltimore, c'est...
C'est quelque chose qui t'a influencé, ouais.
Alors oui et non. C'est-à-dire que c'est une année avec les flics. Moi, il n'y a pas un flic. Enfin, il y a peu de flics dans mon truc. Le seul point commun que j'ai avec Simon, c'est on décrit des systèmes et il a écrit ça pendant son chômage et moi, j'ai écrit ça pendant mon chômage. Donc, on a ça en commun. L'influence, c'est un peu plus Gomorra quand même, même si... Et la série The Wire, que je n'ai jamais vue en entier. Et quand j'ai écrit ce qui est Donnera French Connection, je n'avais pas vu The Wire. Donc, d'accord, ça veut dire que j'étais déjà dans ce type d'approche. Quand j'ai vu The Wire, ça m'a orienté un peu plus et ça m'a donné envie d'être encore plus dans la description de système. Et après, il y a Claire Duport, qui sera tout à l'heure dans la dernière partie de l'émission, m'a souvent encouragé à écrire une sorte de Gomorra marseillais. Et elle m'a donné des bouquins de sociologie qui sont beaucoup plus durs à lire que le mien, mais qui sont passionnants. Et voilà, je voulais rendre lisibles des choses qui sont accessibles d'habitude qu'à des sociologues ou à des gens qui lisent de la sociologie.
Quel regard tu portes, Philippe, sur le type de journaliste que tu pratiques, le type de journalisme à la Saviano, David Simon, on peut extrapoler un peu plus loin sur l'écriture du jeu à l'anglo-saxonne, on parlait du contre-journalisme, on peut citer Hunter Thompson, etc. Quel regard tu portes sur ce type de journaliste que tu pratiques aujourd'hui? Et le journalisme aujourd'hui en France, les journalistes locaux, nationaux, après, qui est dans une situation quand même assez particulière, notamment au niveau des longs formats.
Bon, déjà au niveau du journaliste même, il faut savoir tout faire. Et moi demain, je serai amené à faire du journalisme plus traditionnel, et c'est normal, parce que le long format n'est pas accessible tout le temps. Et des fois, on n'a pas envie de se taper 20 000 signes sur un sujet même bien écrit. Puis en plus, c'est pas toujours bien écrit. Donc, on ne peut pas faire du long format. Moi, comme je l'ai dit, j'ai fait beaucoup de trucs très courts. Et j'aime beaucoup le format court. Je réfléchis à essayer de trouver un moyen de m'y remettre. Je parlais de Fainéant. Fainéant, il n'a jamais dépassé 140 signes. Au 19e siècle, il faisait du Twitter, avant que Twitter existe. Okay. Donc, et d'ailleurs, il y a plein de comptes Félix Fainéant qui sont créés, où les types font des copier-coller de ce qu'écrivait Fainéant. Le format court est donc très important. Ensuite, moi je pense qu'il faut une diversité, comme en tout. Il faut une grande diversité de journaux différents et d'angles différents, donc de sensibilités différentes. Et pareil, dans l'écriture, il faut un peu de tout. Et je pense que les journalistes doivent savoir un peu tout faire aussi. Je revendique, moi, ce côté homme à tout faire. Je suis très content, moi, j'ai plusieurs styles. Je sais écrire de plusieurs manières. Alors pour le moment, j'ai un style qui me réussit, qui fait que je sors de livres, que celui-là marche, mais je suis totalement capable de faire du très traditionnel, et des fois c'est très important d'écrire comme ça, parce que quand on écrit des choses très complexes, à un moment dans une partie du livre je décris des choses autour de l'immobilier, c'est tellement complexe que là j'abandonne un petit peu mon style que je dirais un petit peu gonzo, allez, disons ça, parce que sinon je mets deux difficultés au lecteur, et il y en a très peu qui pourront en sortir. Donc en fonction de ce qu'on raconte, on ne peut pas écrire toujours de la même manière. On ne peut pas toujours personnaliser, surtout pas. Voilà. Donc, il faut adapter sa manière d'écrire à ce qu'on écrit. C'est un peu du flair, c'est un peu du talent, c'est de l'expérience. Mais voilà, c'est, l'écriture, ce n'est pas stéréotypé. Je ne veux pas avoir un style.
On l'a dit en début d'émission, ton ancien journal La Marseillaise va mal. Ce n'est pas le seul journal aujourd'hui qui est dans une situation financière plus que compliquée. Est-ce que tu suis un peu les nouvelles dynamiques qu'il y a sur des modèles économiques différents comme Mediapart ou qui travaillent plus sur le long format, etc. Ce sont des formes aussi qui vont te...
Bien sûr. Ben là, moi, je suis rentré dans un site internet suisse qui s'appelle 7.info. C'est une sorte de revue 21 en ligne. Il publie ensuite, on publie mensuellement un MOOC, mais tous les mois. Et donc, c'est du long format, c'est des histoires. C'est du journalisme sous forme d'histoire, c'est-à-dire assez peu lié à l'actualité, et dont l'ambition est que l'histoire, deux ans plus tard, si on la lise, soit toujours d'actualité et toujours du sens. Donc il y a ce modèle-là. Alors eux, ils testent tout au niveau économique, ils font tout ce qui est possible, et ils voient, et c'est comme une start-up, petit à petit, ils feront le tri et ils verront comment survivre au milieu de tout ça. Ensuite, je suis le parrain d'un site internet qui s'appelle 8e étage. Ce sont des Lyonnais, des jeunes qui ont fait un boulot avec rien au début. Ils font un super boulot et eux, je les ai juste soutenus parce que je trouvais bien ce qu'ils faisaient et qu'ils n'avaient pas d'aide, ils n'avaient pas de notoriété qui leur permettait d'aller chercher des sous, tout simplement. Donc, à ce moment-là, j'avais un tout petit nom qui leur permettait d'avoir un petit peu tout. Et donc, je les ai soutenus. Je vois que ce qu'ils font est de mieux en mieux. C'est vachement bien. Et puis, il y a plein d'autres choses. Alors, il n'y a pas que du long format. 8e étage, je ne fais pas que du long format. Mais aussi du long format. Il y a Les Jours qui viennent de sortir.
Avec les anciennes Libérations.
Qui tient Libé, qui est quand même très bien fait, très beau. Et j'espère qu'ils trouveront un modèle économique et que ça perdurera. En tout cas, voilà. Mais il y a eu Mediapart, évidemment. Mais Mediapart, maintenant, ça devient presque un traditionnel, maintenant. Alors, j'espère qu'ils le prennent pas mal que je dise ça, parce que ça n'enlève rien à la qualité de Mediapart. Mais ils sont là depuis tellement longtemps et c'est devenu tellement une grosse machine qu'on peut les mettre au niveau de gros journaux. C'est ça que je veux dire, en fait. Et il y a plein d'autres exemples. On a ici en local Mars Actu qui fait un boulot super, qui travaille super bien. Et c'était pas gagné. C'est peut-être pas encore gagné pour eux, d'ailleurs. Il faut s'y abonner, hein, parce qu'il faut pas seulement trouver ça bien. Il faut payer. C'est comme ça. Et c'est normal. On paye pour le pain, on paye pour le pain au chocolat, on paye pour ça. Donc on paye aussi pour l'info. Je trouve que c'est la moindre des choses. Et en plus, c'est pas si cher. Donc, Le journalisme, quand ça va mal, il y a du dynamisme qui se fait. Et actuellement, on peut dire quand même que ça bouge, quoi. Il y a de très belles choses. J'ai pas parlé d'un site internet qui s'appelle 4 heures, un autre qui s'appelle Ulysse. Enfin bref, je m'excuse pour ceux que j'oublie, mais il y en a plein, en fait. Et y a plein de belles choses. Et il y a Spicy. Spicy, oui. C'est vachement bien ce qu'ils font. Alors, c'est irrégulier. Des fois, c'est un peu trop cool. Moi, je suis pas toujours pour le journalisme cool. Quand c'est trop cool, ça perd un peu. On veut à tout prix avoir le jeune et on prend le jeune pour un couillon parce qu'on fait cool. C'est pas le cas de Spicy, mais des fois, ça peut tirer vers ça. Faut trouver l'équilibre. En tout cas, c'est très, très bon, quoi. Donc, il y a beaucoup de, comme dans ces périodes troubles, il y a beaucoup de choses. Est-il qu'à un moment, il faudra trouver un équilibre économique. Ça, c'est primordial. C'est pas mon job. Mais il faut y penser. Il faut y penser, y compris quand on est journaliste. Ensuite, sur la PQR, sur les journaux plus traditionnels, la Marseillaise souffre depuis 71 ans maintenant. Donc elle souffre encore maintenant. Ils viennent de faire une nouvelle formule. Il faut les lire aussi. Il faut arrêter de dire pour les uns, ouais, la Marseillaise, c'est bien, c'est triste quand ça disparaîtra et pas l'acheter. Il faut l'acheter. Ou alors, pour d'autres, dire, oh, la Marseillaise, c'est bidon, mais on l'a jamais lu. Lisez. Il y a encore de très bons journalistes qui font de très bons sujets. Donc, faut l'acheter de temps en temps. Je dis pas s'y abonner, mais si on peut, oui. Parce qu'on n'a pas non plus les moyens de s'abonner à tout ce que j'ai cité. Mais on peut de temps en temps le prendre, ça coûte 1 euro, c'est pas la mort. Et l'air de rien, ça permet à des journalistes qui, eux, n'ont pas eu la chance comme moi d'avoir un nom, mais qui l'auraient mérité. Ça leur permet aussi de se dire, ah putain, on est lu quand même, on existe un peu, ça fait du bien aussi.
Et ça sert aussi à diffuser de l'information. Hein,
et puis voilà, s'il n'y a plus la Marseillaise demain, vous imaginez l'info sociale à Marseille, comme ça va s'effondrer. Vous pensez que c'est la Provence qui le fera? Non, la Provence, ils lisent la Marseillaise pour ça. Et après, ils viennent après. Bon, la Marseillaise fait la même chose sur d'autres sujets. Hein. C'est la Provence est un journal très important. Et j'espère qu'il va un petit peu aussi se restructurer, se solidifier, parce que là, il a quand même tremblé, hein, le journal La Provence. On a peut-être perdu quelques personnes qui étaient très importantes au journal La Provence. Mais en même temps, il y a des minots qui viennent d'arriver, qui se battent un peu. Faut pas être négatif, faut pas dire c'est nul, c'est... Non, il y a des bons trucs. Sans La Provence, je pense que les radios locales, elles seraient bien emmerdées pour faire le matin les trucs de presse, les revues de presse. Enfin, voilà, c'est un écosystème, tout ça. On a besoin de tout le monde. mais on a besoin aussi que les auditeurs, lecteurs, émettent un petit peu des sous de temps en temps. C'est pas faire l'aumône de faire ça, c'est juste normal, c'est-à-dire qu'il y a un boulot qui est fait, il faut le payer.
Philippe, on arrive quasiment à la fin de cette première partie d'entretien, de cette carte blanche avec toi. Les projets à venir pour Philippe Pujol, là. Donc du coup, cette info que tu viens d'intégrer,
ouais,
visiblement.
Donc déjà, je vais travailler maintenant plus souvent, parce que j'ai déjà bossé avec eux, avec 7. Donc c'est comme si je bossais pour 21, mais en Suisse. Alors ce qui me plaît, c'est de l'idée d'être un étranger dans mon pays. Bon, je vais écrire pour des Suisses, pour des francophones, mais qui connaissent pas forcément la France. Donc, je vais être obligé d'adopter cette manière de penser, de voir la France, parce que je vais pas être correspondant en Marseille, je vais être correspondant en France, voir la France comme un pays qui n'est pas le mien. Ça me plaît, cette idée. Et en plus, il y a beaucoup de choses à faire, comme dans toutes les startups. Ils sont bien dégourdis, bien, bien dynamiques, ils tentent plein de choses. Quand ça foire, ils refont pas. Quand ça marche, ils vont plus loin. Ça me plaît bien. Et après, j'ai un documentaire. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, parce que vous savez, documentaire, tant que ce n'est pas signé, on ne peut pas en dire plus. Si ça se fait, ça sera bien marrant. Ensuite, j'ai plusieurs boîtes de prod de cinéma qui viennent me voir. Et j'essaye de leur vendre un projet super ambitieux de série. Moi, on veut faire un film. Bon, je suis pour faire le film, je ne vais pas faire la fine bouche. Mais franchement, la série que je leur propose, elle n'existe pas encore. Quoi. C'est pas The Wire, c'est encore autre chose. C'est même pas celle que j'avais écrite il y a 2 ans. C'est quelque chose de très nouveau. Quand j'en parle, les gens ils sont à fond, ils me disent « Ouais, mais ça coûte du pognon. » Ben ouais, ben HBO, ils mettent du pognon. Ben nous aussi, il faut qu'on mette du pognon. Maintenant. Et après, j'ai d'autres projets qui sont beaucoup plus sociétaux, j'ai envie de dire. Où, par exemple, j'en ai un où je vais aider, je vais former avec l'école de journalisme, celle de Pabiouf, l'IEJ, je vais former des minots de cité au journalisme avec des gamins de l'IEJ, c'est-à-dire qu'ils sont plus issus de classes plus favorisées, mais pour qu'ils soient ensemble en cours. Et l'idée, c'est de leur faire faire un live magazine. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le live magazine. J'ai fait celui de Marseille cette année.
Tu peux le raconter.
Et on raconte sur scène un article. Moi, cette année, je n'ai pas raconté. J'ai joué avec Kid Francescoli, un groupe marseillais. On a joué le Clan des Siciliens. Moi, je jouais à la guitare. On jouait le Clan des Siciliens de Morricone en lisant une histoire sur Guérini, l'ascension de Guérini. Ça s'appelait le Clan des Guérini. Ça a beaucoup plu. Cette année, il va y avoir encore des lives normalement. Et je devrais être normalement à la. Je ne vais pas être dans le live cette fois, d'accord, mais je devrais être au conseil rédactionnel. Il y a des petites surprises normalement si tout se passe bien. L'idée, c'est de faire un live avec les jeunes dont je parlais tout à l'heure, en passant par la fondation d'Auteuil, qui s'occupe des orphelins et des jeunes défavorisés. C'est eux qui m'amèneraient ces jeunes-là. Et j'ai encore d'autres projets de ce type, et j'en ai un très, 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 très gros dont je ne peux pas parler, parce que si ça ne se fait pas, je passe pour un débile. D'accord. Mais si ça se fait, par contre, c'est vachement bien.
Ce sera peut-être l'occasion de te réinviter.
Ah là, vous me réinviterez, ça se fait.
À ce moment-là. On va faire une petite pause en musique. Ça nous permet de boire un petit coup de flotte, de changer un peu, d'accueillir les musiciens qui vont venir en studio ici pour la deuxième heure de cette carte blanche que Radio Grenouille consacre dans le cadre de ce Grand 8 au journaliste Philippe Pujol. Il y a le groupe No Exit Only, des bons gros rockers qui vont nous rejoindre avec mon camarade Stéphane Galland. Avec Stéphane, vous avez, Philippe, un peu échangé autour d'une petite playlist, une petite sélection qui va permettre d'accompagner les auditeurs ici. On va pas pour l'instant en parler trop. Dans tous les cas, il y a une sélection qu'on a faite pour toute cet après-midi. Je rappelle qu'on est en direct depuis midi. Encore une petite sélection du camarade Anticlimax avec le groupe Oi, premier single d'un nouvel album d'un duo qui est basé à Berlin. Le titre, c'est A New Planet Is Born. C'est le Grand 8, c'est Radio Grenouille 88.8. Et cet entretien est terminé. Merci Philippe.
Merci.